Voilà, bienvenue à ce café scientifique. Merci d'être si nombreux. Juste pour commencer, si des personnes ont envie de consommer quelque chose, de boire un verre, la cafétéria ne va pas être ouverte pendant tout le café, donc je vous propose d'y aller maintenant. Et je suis très contente de vous accueillir ce soir pour ce café scientifique sur les clean tech, déjà bonne achetée, point d'interrogation. Hein. Alors c'est un thème qui est un petit peu racoleur, c'est clair, et puis ben voilà, le but c'était de vous faire venir, maintenant que vous êtes là, on peut parler sérieusement. Donc je pense qu'il y a personne ici qui est prêt à mettre ces clean tech à la poubelle, d'autant plus qu'elles marchent drôlement bien, ces clean tech. Hein. Si on va voir sur Wikipédia, on voit qu'en 2006, d'après ce qui est marqué, il y avait juste 75 milliards de dollars qui ont été investis dans les clean tech. Entre 2006 et 2007, toujours sur Wikipédia, on pense qu'il y a eu 60% d'augmentation d'investissement, toujours dans ce domaine. Donc, elles vont très bien, elles ont le vent en poupe. Hein, à la bourse aussi, elles sont très bien cotées. Néanmoins, il y a des gens qui ne sont pas tout à fait d'accord pour dire que c'est la panacée ou que tout va bien dans le meilleur des mondes. Puis, ces gens, il y a normalement Dominique Bourg qui est juste là à ma gauche. Je ne sais pas si vous l'avez entendu parler à la radio suisse romande juste là au 12h30 aujourd'hui. Donc Dominique Bourg, quand on organise des cafés scientifiques, c'est la personne rêvée parce qu'il n'est pas tout à fait d'accord. Il n'est pas d'accord avec la majorité. C'est un méchant. Et puis, bon, j'ai préparé mon allocution. Je ne pensais pas qu'il viendrait avec son fils qui est juste dans la salle à côté. Donc si jamais, on rigole, hein. Mais quand même, c'est un méchant. Il dit par exemple des choses. Il dit qu'il ne faudrait pas qu'on ait tous des gros véhicules. Il dit de pire encore, il dit qu'il ne faudrait pas qu'on prenne l'avion pour partir en vacances avec ses compagnies bon marché. Ça fait mal. Hein. Mais donc voilà, nous on aime bien ces gens comme ça parce que ça permet de créer un débat. Comme ça on peut discuter, on n'est pas tous du même avis. Et puis le pire c'est qu'en plus il est documenté, il a des arguments. Donc c'est pour ça qu'on a choisi pour l'accompagner, pour nous accompagner dans cette soirée, d'autres intervenants qui en connaissent aussi un bout sur un rayon sur la question. Alors, à ma droite, cette fois, j'ai Christophe Baïf, que vous connaissez sûrement si vous vous intéressez au photovoltaïque ici à Neuchâtel. Il est très connu. Il y a deux autres personnes qui sont un petit peu moins connues parce qu'elles ne viennent pas de Neuchâtel. C'est des gens qui viennent de Fribourg, M. Mange ou de Genève, M. Bourgenmeier. Mais c'est très bien, ça va nous permettre d'ouvrir un peu la question à d'autres horizons et de voir ce qui se fait aussi ailleurs. Je laisse maintenant ces gens se présenter eux-mêmes et puis ensuite je vous invite vraiment à poser vos questions. C'est ça le but de nos cafés scientifiques, c'est une discussion et on compte sur vous, donc allez-y, vraiment, toutes les questions sont les bienvenues. Alors on commence peut-être Monsieur Mange.
Bonsoir mesdames et messieurs, alors effectivement Vladimir Mange, je suis chimiste de formation et je travaille à Fribourg donc pour une entité qui s'appelle Cleantech Fribourg. Donc son nom dit, en fait dans les deux mots il y a déjà tout qui est dit. Je suis là pour assurer la promotion du Cleantech dans le canton de Fribourg. Qu'est-ce que ça veut dire la promotion du Cleantech? C'est de soutenir l'économie fribourgeoise en aidant les entreprises à prendre cette direction du Cleantech. Pas forcément sponsorisant EasyJet, d'ailleurs. Je l'ai dit. pour montrer aux entreprises qu'il y a un intérêt économique, qu'il y a un futur dans ces technologies-là, il y a un besoin du marché international, et puis qu'il y a des opportunités qu'il faut les saisir, il y a des formations dans ce domaine-là. Enfin, il faut comprendre d'abord ce que c'est avant de pouvoir le faire.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis Christophe Baïf. Je n'ai dû faire que 50 mètres pour venir depuis mon lieu de travail, à savoir l'Institut de Microtechnique, maintenant faisant partie de l'EPFL, mais qui faisait jusqu'en 2009 partie de l'université. J'ai repris en courant de 2004-2005 le laboratoire de photovoltaïque qui avait été dirigé auparavant par mon prédécesseur, le professeur Arvind Shah. Et bénéficiant de la vague Cleantech, ce laboratoire a pu croître au cours des dernières années. Nous sommes actuellement près d'une soixantaine de collaborateurs qui travaillons essentiellement financés par des projets externes, que ce soit des projets de l'Office fédéral de l'énergie, d'autres institutions de la Confédération, mais aussi beaucoup de l'Union européenne, et également partenariats directs avec des industriels. Nous avons des contrats avec une quinzaine de sociétés industrielles dans la région neuchâteloise, mais aussi en Europe et parfois même aux États-Unis. Donc voilà, pour nous, le Cleantech, c'est bien sûr quelque chose de très important, et je tremble déjà à l'issue du débat de ce soir, hein, si on devait tous les jeter, car je ne sais pas ce qu'on ferait demain, et je me réjouis d'en débattre en tout cas avec vous.
Donc, Dominique, bon, je ne sais pas si je suis un méchant, enfin vous me le direz après, mais ça, je ne sais pas si ça marche ça.
Igor, ça marche
Là, le... Oui, si, je crois que ça doit... Merci, ça doit marcher. Donc, moi, je suis philosophe de formation, je suis professeur à l'UNIL, donc à l'université d'à côté. Et je dirais, mon problème, ce n'est pas du tout les clean tech, que la chose soit claire. Mon problème, c'est ce qu'on prétend en attendre. Ce qui n'est pas exactement la même question, mais je crois qu'on y reviendra dans le débat. Et ce que je propose peut-être, puisqu'on a de très bons spécialistes ici autour de cette table, c'est qu'on s'attache dans un premier temps à définir ce qu'on entend par clean tech. Ça pourrait être intéressant. Voilà, merci.
Je m'appelle Beat Burgenmeier, je suis balois et bon par définition, et j'enseigne l'économie dans ma faculté des sciences économiques et sociales. Et j'ai publié énormément dans le domaine de la politique environnementale, notamment dans un manuel qui a passablement connu de succès, si on compte le tirage comme critère. C'est évidemment rien, ça veut rien dire à la limite. C'est l'économie du développement durable. Donc au fond, je représente ici un courant de pensée qui... cherche à ouvrir la science économique aux problèmes environnementaux.
Très bien. Alors, qui se sent prêt à définir les clean tech? Je ne sais pas si... Monsieur Baïf, peut-être? Non, vous en avez un.
Alors, en gros, les clean tech, c'est un sujet très vaste. Hein, on peut y mettre un peu tout et n'importe quoi. Mais je pense qu'on peut essayer de le définir comme un ensemble de technologies qui permet de fabriquer des produits qui soit permettent d'économiser des ressources, d'utiliser moins de matière, soit qui permettent de produire, d'avoir des procédés de fabrication qui sont plus respectueux de l'environnement, qui permettent de produire de l'énergie de manière plus respectueuse de l'environnement, qui permettent de s'attaquer aux problèmes de la biodiversité, aux problèmes de l'eau, aux problèmes des moteurs de voitures. Donc c'est n'importe quel, on va dire, élément technologique qui permet de rendre le monde peut-être un peu plus durable, un peu plus pérenne. C'est comme ça que je le verrai en tout cas.
Monsieur Mange, vous êtes d'accord? Vous avez quelque chose à ajouter peut-être?
Alors, je suis tout à fait d'accord avec l'explication. Pour moi, il y a deux éléments importants à se rappeler. C'est que d'abord, clean tech n'est pas égal à high tech. Je veux dire, quand je change l'ampoule dans ma maison pour mettre une LED que je vais acheter dans n'importe quel magasin, voire ce qu'on appelle une ampoule fluo compacte, donc ces nouvelles ampoules, enfin qui sont nouvelles depuis une dizaine d'années, je fais déjà un tout petit peu de clean tech dans ma maison. Donc c'est pas uniquement Solar Impulse qui a le désavantage d'être un projet magnifique, mais tellement médiatisé que tous les gens qui font juste des choses bien se disent qu'ils en sont très loin. Donc clean tech n'est pas égal à high tech. Et puis le deuxième aspect important, moi j'appelle ça la nébuleuse clean tech, il y a aussi un certain nombre de choses, et c'est là où je me réjouis d'en débattre avec le professeur Bourg, il y a aussi un certain nombre d'outils qui permettent de juger de la clean, enfin du degré de clean tech d'un produit, d'un projet, et c'est là où juste prendre le produit en tant que tel et en pensant qu'on aura la solution fantastique parce qu'on a mis des ampoules économiques chez soi, et si on regarde l'entier de la chaîne, la totalité de la chaîne de valeur, c'est là où on se rend compte qu'on est totalement à côté de la plaque. Donc c'est le produit, mais aussi les technologies scientifiques et les outils de compréhension du mécanisme.
Voilà. Est-ce que quelqu'un aurait quelque chose à ajouter?
Oui. Non, toujours pas.
Mais clean tech est devenu une étiquette pour capter un peu l'idée que c'est par la technologie qu'on peut résoudre les problèmes environnementaux. Et cela ne peut être vrai qu'en partie. Alors il faudrait peut-être beaucoup mieux réfléchir sur les différentes pistes, comment peut-on mieux protéger l'environnement, autrement dit, comment peut-on concilier un objectif économique, assurer un bien-être matériel aussi élevé que possible, avec la protection de l'environnement. On voit que tous les indicateurs qui sont à notre disposition montrent plutôt qu'il y a une corrélation très étroite, il n'y a pas de découplage entre la croissance économique d'une part et l'accroissement de la pollution. Alors si on regarde un petit peu ce qui est sous cette attente technologique, évidemment on trouve des choses que personnellement considère comme étant farfelues. C'est un peu des apprentis sorciers qui nous promettent, au fond, au moindre coût, la meilleure protection de l'environnement possible, notamment par une géo-ingénierie où on éjecte l'aérosol dans l'atmosphère, où on peut aussi penser à éjecter des particules d'aluminium pour faire une sorte de protection contre la lumière du soleil, pour éviter le réchauffement. Ces options sont discutées très sérieusement dans des milieux scientifiques. Et ça, c'est évidemment un peu apprenti sorcier, parce que ça voudrait dire qu'on connaît l'écosystème planétaire. Or, rien de tel est connu. Nous avons quelques pièces du puzzle, mais nous n'avons pas du tout la connaissance du tableau complet. Donc, on ne sait pas à quoi on joue si on va dans ce type de technologie. C'est notamment des propositions par des écologistes sceptiques qui sont tout à fait prêts à aller dans ce sens. Il y a des techniques qui vont plutôt chercher à capter du carbone pour le stocker, pour imiter un petit peu le rôle des forêts. Et là, ça devient peut-être plus sérieux et on peut peut-être réfléchir un peu mieux dans cette direction, et la recherche dans ce domaine est plutôt au début. En ce qui concerne les technologies de ressources, notamment d'énergie renouvelable, là, en tant qu'économiste, hein, c'est très simple. D'une manière aveuglée et instinctive, on va au meilleur marché. Et aussi longtemps que les ressources et des énergies renouvelables coûtent plus cher que ce qui est disponible dans les sources énergétiques conventionnelles, et on aura de l'énergie conventionnelle. Voilà.
Alors, si vous permettez, je vais revenir un petit peu sur la définition. Alors, je reviens un peu en amont par rapport à ce que Bernd Bourgmeier vient d'envisager. Je vais revenir sur la définition générale. Alors, je crois qu'on est complètement d'accord. Les deux choses essentielles qui ont été dites sont les suivantes. Dans un cas, on entend par clean tech des techniques qui permettent de changer, par exemple, un procédé de fabrication pour avoir un procédé moins destructeur, moins nuisible pour l'environnement, par exemple du type remplacement des CFC par autre chose. Et puis, l'autre aspect des clean tech, c'est de réussir à produire avec une consommation de ressources moindre. Alors, quand on a défini ces techniques ainsi, je dois dire que c'est excellent. Si on s'arrête à cette définition, et même si on regarde la réalité, ce n'est pas un problème. En revanche, si on met en relation ces techniques, ce qu'on en attend, et puis finalement, leur efficacité finale, là, on peut critiquer. On ne va pas critiquer les clean tech, en l'occurrence. Hein. Faites bien attention à ça. On va critiquer l'usage et le résultat qu'on cherche en attendant. Alors soyons très simples. Grosso modo, ça peut permettre quoi une technique ou des techniques? La première chose que ça peut permettre, eh bien, c'est par exemple, on vient d'y faire allusion, c'est de mettre sur le marché des biens ou des services qui consomment moins de ressources. Par là même, puisque ces biens et ces services vont consommer moins de ressources, ce sont des biens et des services qui existent, ils sont existants, mais on va les produire de telle sorte qu'en les produisant, on consomme moins de ressources. La première conséquence que ça a, c'est qu'on va pouvoir les mettre sur le marché à un coût moindre. Et puisqu'on les met sur le marché à un coût moindre, eh bien du coup, on les consomme plus. Et puisqu'on les consomme plus, ce qu'elles permettent de gagner à chaque unité se perd, au bout du compte, du fait que l'abaissement du coût d'accès au marché va produire une demande plus grande. On peut prendre par exemple le cas de l'énergie. Si vous prenez l'année 1970 comme année de référence, eh bien en 2010, par point de PIB, grosso modo, on pouvait produire un point de PIB avec 30% d'énergie en moins. Donc c'est excellent. Mais comme le PIB a augmenté, eh bien en fait, entre 70 et 2010, 2009 exactement, mais peu importe, les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale ont augmenté, elles, de 80%. Ensuite, deuxième apport des technologies, je ne parle pas forcément d'ailleurs des clean tech, de manière plus générale, deuxième apport des technologies, c'est qu'on va pouvoir produire des biens et des services nouveaux qui n'existaient pas autrefois. Alors, ce n'est pas dans l'absolu. On s'appuie toujours sur les grandes fonctions que les Grecs avaient déjà identifiées, se nourrir, se loger, se vêtir, communiquer, se déplacer. Bon. Par exemple, on va inventer les smartphones. Bon. très intéressant. Tout le monde, moi j'en ai un. Je tiens pas non plus à m'en priver. Je ne suis pas un ayatollah. Mais effectivement, quand on produit des smartphones, bien, on produit des objets qui n'existaient pas. Et pour les fabriquer et pour les faire fonctionner, on consomme de nouvelles ressources. Donc là, vous voyez que dans ces deux cas-là, et c'est une des raisons pour lesquelles la technique est sans doute un des moteurs de la croissance, dans ces deux cas-là, avec des technologies nouvelles, quand bien même on chercherait à réduire notre impact, on finit par, au bout du compte, grossir l'impact qui est le nôtre sur la biosphère. Et puis, il y a une troisième catégorie, alors on vient juste d'y faire allusion, il y a toutes les technologies end of pipe, on va simplement traiter des pollutions, et puis on peut imaginer, alors à une échelle plus grande, effectivement, avec la géo-ingénierie, etc., le professeur Bruggenmeier a fait aussi allusion au stockage du carbone. Ça, c'est une technologie qui sera sans doute extrêmement intéressante. On ne peut pas s'en passer. Mais là aussi, le jeu peut être très bizarre. Le fait de savoir stocker, ça va aussi nous encourager à consommer encore plus. Donc, au bout du compte, si l'on attend de ces techniques qu'elles nous permettent de réduire nos flux d'énergie et nos flux de matière de manière globale, alors là, on se trompe. Et si c'est ce qu'on vend au public, on se trompe. Et ça, ça n'a rien à voir avec le côté extrêmement bien fait du travail des scientifiques et des techniciens. Ce ne sont pas eux qui sont en cause dans cette histoire. C'est le système, c'est le fait qu'effectivement, eh bien, ça va déboucher sur un accroissement de la consommation. Donc ça, ça ne permet en aucun cas de remettre en cause les clean tech, mais c'est de dire que ce qu'on en attend, à savoir qu'elles sauvent la planète par elles-mêmes, sans qu'on change quoi que ce soit par ailleurs, alors ça, c'est de l'ordre du mensonge. En revanche, imaginez, mais alors franchement, pour la plupart des gens, c'est oresco referens, on n'en parlera jamais, mais imaginez qu'on ait un contrôle de la consommation d'une manière ou d'une autre. Ce qu'on peut faire avec des taxes carbone, ce qu'on peut faire avec des quotas. Là, si vous associez les deux, c'est-à-dire un contrôle de la consommation et des clean tech, alors là, oui, vous aurez un résultat intéressant. Donc mon discours ne consiste pas à mettre en cause en tant que tel les clean tech, mais à bien critiquer, en tout cas à bien mettre sur la table le discours qui accompagne leur promotion. Ce discours peut parfois être pertinent, parfois il est tout simplement faux, si ce n'est même mensonger. Puis ensuite, si on revient sur telle ou telle technique, alors parfois on peut avoir beaucoup de choses à dire. Bon, on va investir beaucoup d'argent dans le photovoltaïque. Ce n'est pas mes voisins qui vont me dire qu'on a tort. Moi non plus, je ne vais pas vous dire qu'on a tort. Simplement, parfois, on peut faire quand même quelques erreurs. Si vous achetez la plupart des panneaux faits en Chine, par exemple, l'électricité chinoise est une électricité extrêmement carbonée. Il y a du charbon, tout simplement, pour la majeure partie. Donc, quand vous les produisez en Chine avec une électricité qui est une électricité très chargée en carbone, comme il faut beaucoup d'énergie pour produire un panneau, eh bien, si on fait le calcul total, en fait, eh bien, durant toute sa durée d'existence, un certain type de panneau qu'on va acheter en Chine et qu'on va importer, là aussi il y a du carbone ici, n'épargneront pas suffisamment de CO2 par rapport à la quantité de CO2 qui aura été émise par leur fabrication. Donc il y a un problème dans ce cas-là. On pourrait prendre d'autres technologies, on pourrait revenir sur certains aspects de l'éolien qu'on peut aussi critiquer. Donc, alors attention, il faut faire très attention, là on est à un certain niveau, vous voyez que tout n'est pas égal. Si on produit ces panneaux dans d'autres contextes, avec une électricité qui est beaucoup moins chargée en carbone, alors là, les choses commencent à devenir intéressantes, ces technologies évoluent, elles seront de plus en plus intéressantes. Mais, en l'occurrence, quand on dépense dans un pays comme la France, lorsque l'État dépense en le faisant payer EDF, et donc par là même aux contribuables, eh bien, des centaines de millions d'euros par an pour subventionner des panneaux photovoltaïques qui pour 80% sont produits en Chine, ce n'est pas génial pour l'environnement. C'est même rigoureusement l'inverse. Vous voyez, donc parfois, le monde est assez compliqué.
À part s'il y a une question dans le public, je crois qu'il faut que je passe la parole au côté droit.
Alors d'abord, je vais juste réagir par rapport aux panneaux chinois. Donc il faut juste savoir qu'à peu près, effectivement, peut-être les panneaux chinois produisent un kilowattheure sur leur durée de vie avec un équivalent de 100 grammes de CO2 par kilowattheure produit, ce qui est toujours 8 fois mieux qu'une centrale au charbon. Il faut aussi savoir que le mix européen de courant, à part la Suisse et la France, est essentiellement aussi donné par des centrales au charbon, au gaz, entre autres en Allemagne et en Pologne. Donc on n'est pas bien meilleur que les Chinois.
Au monde, de manière générale. Hein, voilà.
Tout à fait. Et en plus, il faut aussi savoir pourquoi est-ce que les Chinois commencent à produire énormément de panneaux photovoltaïques. C'est parce que le solaire est devenu en Chine une priorité absolue du gouvernement chinois qui met à disposition des entreprises chinoises des lignes de crédit faramineuses, 30 milliards de dollars de lignes de crédit pour les 5 plus grandes entreprises chinoises, parce que la Chine veut s'approprier ces marchés du futur. Donc c'est juste pour peut-être replacer les choses. Donc les panneaux ne sont pas si mauvais que ça. Et puis maintenant, je pourrais peut-être venir, parce que je pense que c'est un aspect vraiment important de la chose. On parle de subventions, mais dans le cas du solaire, et c'est le cas pour beaucoup d'autres technologies, il ne faut pas voir ça comme une subvention. Il faut regarder, c'est est-ce qu'il y a à long terme le potentiel de véritablement contribuer à quelque chose de positif pour l'humanité, auquel cas on va parler d'introduction ou d'aide à l'introduction sur le marché. C'est des lois qui ont été mises en place en Allemagne, en Espagne, en France. Alors chaque pays fait des expériences plus ou moins bonnes. Et je pense que l'exemple de l'Allemagne est absolument extraordinaire. Parce que l'Allemagne a dit à un moment donné, on va mettre en place des conditions stables pour que les gens puissent installer des panneaux, on rachète le courant. Chaque année, le tarif de rachat baisse de 5 ou 10%. Et ça, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné la possibilité au capitalisme d'exprimer sa force positive, à savoir tout d'un coup les industriels, au lieu de faire plus de smartphones, inutiles, futiles, tout d'un coup, ces industriels commencent à produire des panneaux photovoltaïques. Donc au moins, les ingénieurs mettent leur intelligence vers quelque chose qui fait du sens. Et c'est ce qui s'est passé. Dans les 10 dernières années, on a augmenté les capacités de production au niveau mondial. Maintenant, on parle pour cette année de 17 gigawatts de panneaux photovoltaïques qui vont être produits. Et le prix de production a été baissé, si je prends sur les 30 dernières années, par un facteur 20. Si je regarde un petit peu plus loin, je me rends compte qu'on sera capable de faire en Suisse du courant solaire d'ici une dizaine d'années pour 10 centimes. On sera capable de la faire pour 5 centimes dans les régions ensoleillées. Alors maintenant, c'est intéressant, puis ça, avec un taux de retour en énergie qui sera de l'ordre de quelques mois, peut-être 6 mois. Alors ça, c'est intéressant parce que si en même temps, j'ai les techniques de stockage, par exemple avec de l'hydrogène, j'ai résolu un des plus grands problèmes de l'humanité, à savoir que je suis capable de produire une électricité de manière infinie, avec des procédés optimisés, je suis capable de la restituer au bon moment. Donc il y a un potentiel énorme là-dedans, et on voit bien ici que le rôle de l'État, mais ça je vous en êtes conscient, à mettre les bonnes lois pour que puisse s'exprimer cette force du capitalisme, est importante. Malheureusement, ça ne se fait pas assez, ça ne se fait pas de manière suffisamment coordonnée, et puis c'est ça qu'on devrait voir apparaître dans ces prochaines années, de plus en plus. Alors inutile de demander ce que fait la Suisse, hein. La Suisse fait un peu comme les autres, mais toujours avec un facteur 10 ou 100 par habitant moins fort, et puis la France fait des avancées, des retours, des grandes déclarations, peut-être un peu à la française.
Alors, précision quand même. Hein. Le chiffre que je donnais pour les panneaux chinois, il est produit par Carbon 4, qui est une excellente société qui est précisément spécialisée dans toute l'économie carbone. C'est une évaluation qui a été faite pour un industriel français, qui était d'ailleurs, je peux vous le dire, extrêmement mécontent du résultat, parce que, quant à lui, il avait un intérêt très fort à ce qu'on continue à promouvoir ces panneaux. Deux remarques. Donc là, je crois que c'est assez fiable. Ce n'est pas une critique de cette technologie. Hein. J'ai bien insisté là-dessus. Une même technologie produite dans des endroits différents, à des moments différents, à des moments différents dans sa maturation, ça peut donner des choses extrêmement variables. D'autre part, je ne nie pas, encore une fois, je l'ai dit d'ailleurs de façon très précise tout à l'heure, qu'on est dans des technologies qui sont très évolutives et qu'un jugement qu'on peut produire aujourd'hui, en aucun cas, ne peut être un jugement définitif sur les possibilités de cette technologie. J'ai jugé, à un moment donné, une politique publique qui là est assez fiable, ça fait des années que ça marche, qu'EDF doit racheter à un prix très fort le kilowattheure, exactement dans l'esprit que vous avez indiqué, c'est-à-dire de créer une stabilité sur le marché pour amener cette technologie à se développer. Si on en fait le bilan au jour d'aujourd'hui, en tout cas tel qu'elle était pratiquée en France, mais je ne suis pas sûr que le bilan serait très très différent ailleurs, et en termes de tonnes de carbone évitées, non, je suis vraiment désolé, si on avait investi au moins une part, parce que vous avez raison, il faut aussi permettre à cette technologie de se développer, mais une part de cet argent, par exemple, dans la réhabilitation du bâti, je vous rappelle qu'à peu près dans tous les pays occidentaux, le bâti, c'est 40% d'énergie primaire consommée en général dans un pays, ça n'aurait pas non plus été une mauvaise chose. Maintenant, ne rêvons pas d'énergie infinie. Je ne dis, peu m'importe le fait de savoir si c'est possible, mais j'ai vraiment des doutes parce qu'il y a un coût et on pourrait y revenir tout à l'heure. Mais imaginons que ce soit le cas, je vous assure que ça ne serait pas une bonne nouvelle. Parce que l'énergie infinie, c'est la possibilité d'une transformation et d'une destruction tout aussi infinie de l'environnement. Donc je ne pense pas que ce soit une finalité qu'on doive se donner. En revanche, nous allons être confrontés à un problème énergétique extrêmement difficile. Même l'Agence internationale de l'énergie a reconnu que nous avions, pour le pétrole conventionnel, attention, désormais atteint ce qu'on appelle le pic pétrolier. Donc on va avoir un plateau d'une dizaine ou d'une quinzaine d'années. Je vous rappelle que depuis 1979, si on fait le ratio de l'énergie consommée au monde par personne, eh bien, alors que ce ratio avait toujours augmenté en quelque sorte jusqu'en 1979, depuis la fin du 19e, il n'augmente plus à l'échelle internationale. Donc l'humanité va être confrontée à un problème énergétique extrêmement important. Donc dissuader la recherche dans ce domaine serait une folie. Ça n'aurait absolument aucun sens. C'est pas du tout ce que je me remets en cause. Simplement, je dis, c'est vrai qu'on est face à des situations très, très difficiles. Parfois, les choix en termes de politique publique sont pas simples. Souvent, on les fait en regardant certains paramètres, en n'en regardant pas d'autres. Et si, effectivement, on s'est trompé sur certains aspects, sans, encore une fois, condamner une technique qui serait idiot, surtout avec le photovoltaïque, on peut revenir sur certaines erreurs. C'était tout simplement ce que je voulais souligner.
Il y a une justification théorique pourquoi faut-il promouvoir clean tech. Au fond, si on laisse les uns et les autres décider eux-mêmes quel type de recherche ils veulent engager, ils vont forcément décider individuellement en fonction de critères de rentabilité. Et forcément, cette rentabilité individuelle de maximiser un profit n'est pas forcément le profit qu'on attend en tant que communauté humaine. Et par conséquent, il y a une différence entre la rentabilité sociale et la rentabilité privée. Et comme il n'y a pas de rentabilité privée suffisamment orientée vers la rentabilité sociale, il manque une incitation d'aller dans la direction de clean tech. Donc, l'État est invité à réduire le coût de ces technologies nouvelles en notamment utilisant les subventions. Mais l'État, à la même occasion, peut aussi renchérir les sources énergétiques traditionnelles, par exemple par une taxe carbone. Et forcément, ce qui est censé s'épuiser va devenir plus cher. Parallèlement, pour faciliter l'introduction de nouvelles technologies compatibles avec la protection de l'environnement, on donne un coup de pouce en le rendant à l'introduction meilleur marché. Donc on va jouer dans les deux sens pour réorienter l'économie vers un comportement plus vertueux en matière de protection de l'environnement. Et comme nous vivons dans un monde où nous avons depuis 30 ans connu le discours néolibéral « moins d'État et plus de marché », nous sommes aussi dans un finalement scénario où il y a pas mal de mondes politiques qui pensent toujours ne devoir pas réguler ni avoir une politique environnementale active, parce que un des courants forts, c'est toujours d'imaginer qu'on peut laisser ça au marché et à l'initiative privée. Donc il est un peu dangereux de venir avec un scepticisme technologique au moment où il faudrait d'abord convaincre les uns et les autres qu'il faudrait agir et repenser les garde-fous qui sont ceux auxquels l'économie doit s'orienter. Alors pour moi, le discours que je comprends bien par mon collègue qui se pose des questions sur la technologie, je comprends parfaitement en poussant vers des clean tech, on ne pousse pas forcément là où il y a peut-être des gisements les plus intéressants, à savoir des économies d'énergie, où finalement cette idée de faire quelque chose qu'on ne regrette pas, quel que soit le scénario du futur, ne va pas être favorisée au moment où on remplace tout simplement le pétrole par du solaire ou par photovoltaïque, tout ce que vous voulez. Et forcément, il faut dès lors réfléchir à un ensemble de mesures et réfléchir sur la complémentarité de ce que les anglo-saxons appellent un policy mix. Vous ne pouvez pas uniquement utiliser d'une manière isolée l'argument clean tech. Vous devez réfléchir sur l'ensemble des mesures qui finalement se complètent plus ou moins harmonieusement selon les rapports de force. Et forcément, cela n'est pas tout de suite une solution idéale. Celle-là, on ne l'a pas.
Monsieur ?
Oui, Blaise Riesberger. Je voulais juste faire deux remarques, enfin soumettre deux remarques aux intervenants. Tout d'abord, concernant les clean tech, il me semble qu'effectivement, c'est une notion qui ne recouvre aucune réalité. On a éventuellement des technologies plus propres, donc cleaner tech, ou moins sales, si on veut. Mais elles ont toujours une consommation de ressources et un impact sur l'environnement, donc elles ne sont jamais propres. Ou alors on a des technologies de nettoyage, ça serait des cleaning tech, qui sont justement les technologies de end of pipe, etc. Donc, et c'est clair que moi, il me semble qu'on a tendance à s'illusionner, à quelque part se déculpabiliser avec cette notion de clean tech qui semble ouvrir des perspectives justement infinies et nous décharger de toute responsabilité d'économiser les ressources par ailleurs. Alors c'est clair qu'en termes de communication, c'est très bien, et puis c'est clair que ça nous fait tous un petit plaisir au cœur. Mais bah, ça nous, effectivement, ça remet un peu nos responsabilités dans un coin. Maintenant, par rapport aux panneaux photovoltaïques, je me demandais s'il ne faut pas regarder ça aussi à plus long terme, sachant qu'il faut quand même construire aujourd'hui et produire les moyens de générer de l'électricité de façon aussi propre que possible, même si on doit les produire de façon sale. Il y a bien un moment où on doit utiliser du pétrole et du charbon pour construire des éoliennes et des panneaux photovoltaïques. Après, on aura des éoliennes et des panneaux photovoltaïques pour construire les générations suivantes. Mais cette transition, on doit la faire à un moment ou à un autre. Est-ce que maintenant, c'est le moment idéal? Est-ce qu'il faudrait encore attendre, pas consommer les panneaux chinois, plus en consommer pour aller plus vite? Donc, c'était un peu les deux remarques que je voulais faire.
Alors j'aimerais juste revenir sur... Vous avez l'air de penser que les gens qui promeuvent le clean tech ont envie d'avoir soit des sources infinies à disposition d'énergie ou ne pensent pas à la rationalité énergétique, à l'efficacité énergétique. Je pense que c'est absolument faux. Normalement, n'importe quelle personne qui travaille dans le clean tech ou même dans le solaire ou dans l'énergie éolienne sait que d'abord, il faut commencer par utiliser l'énergie de façon rationnelle, qu'il faut commencer par isoler les bâtiments, avoir des voitures qui consomment moins. Ça, c'est évident pour tout le monde. Maintenant, c'est sûr que si après on laisse, si tout d'un coup une technologie clean tech devient si parfaite, si bon marché, que plus rien ne peut l'arrêter, il faudra aussi la contrôler, parce qu'après, c'est le règne du capitalisme, et tant qu'on peut vendre des produits, des sources d'énergie, on va les prendre. Et là, de nouveau, cet aspect de législation, de loi qui cadre, qui va mettre des quotas, va être extrêmement important. Donc moi, je suis fortement un partisan de... On n'a plus le temps d'attendre, donc on doit commencer... En même temps, les différentes choses, l'efficacité énergétique, le développement des nouvelles formes d'énergie, des nouveaux procédés en parallèle, en même temps qu'on pense à mettre en place aussi ces nouvelles gouvernances, ces nouvelles lois, ce nouveau système économique. Et c'est là qu'il y a un travail énorme à mettre en place, parce que là, il y a des lobbies, des forces qui sont à l'œuvre, qui sont des lobbies extrêmement puissants. On a ici un économiste plus éclairé que Économie Suisse, qui, par exemple, fait absolument tout pour boycotter tout effort, que ce soit dans l'assainissement des bâtiments. Et puis, en Suisse, on est bien sûr, en plus, dans cette situation, on a un Parlement un peu schizophrénique, avec des gens de droite qui ne veulent rien faire, et puis ceux de gauche, quand on met des taxes CO2, ça retourne à l'assurance maladie. Alors, donc, on est à peu près sûr qu'il n'y a pas d'impact. Et puis, il faut peut-être encore donner un message. En Suisse, on a ces lobbies, par exemple, dans les groupes électriques. C'est extraordinaire de voir ce qui se passe. Les groupes électriques sont des groupes qui ont bénéficié de monopoles pendant des décennies. Et puis, grâce à ces monopoles, ils n'ont pas accumulé des fortunes. Puis, au lieu d'investir dans la recherche et le développement, d'essayer de créer des nouvelles solutions, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la même chose qu'ils ont toujours fait. En gros, ils ont réinvesti 0,3% de leurs revenus dans la R&D, alors qu'aucune compagnie ne peut survivre, une compagnie compétitive dans le monde d'aujourd'hui, si elle n'investit pas massivement au moins 5 à 7% de ses revenus dans la R&D. C'est pour ça qu'on se trouve avec des fossiles qui proposent toujours les mêmes solutions. Là, il y a vraiment aussi une mentalité à faire changer.
Il y a une question dans la salle, si vous permettez. On va juste aller dans le public.
Bonjour. Monsieur Bourg, vous mentionnez lors de votre discours d'introduction la thématique du contrôle de la consommation. Dans un monde dans lequel la santé économique et la santé sociale reposent encore sur la croissance, dans un monde dans lequel la démographie ne fait que croître, qu'entend-on ou que peut-on comprendre par contrôle de la consommation. Est-ce que l'on ne s'illusionne pas ?
Alors, je vais essayer de répondre à votre question. Il y a beaucoup d'aspects qui sont assez différents dans votre question. La question du contrôle de la consommation, ce n'est pas une question générale. Elle se pose de façon très différente selon les pays. Considérons toujours l'aspect énergétique des choses. Au jour d'aujourd'hui, le renouvelable au sens de l'éolien, au sens du photovoltaïque, c'est moins de 2% à l'échelle du monde. L'essentiel de l'énergie que nous consommons, pour 80% de l'énergie primaire qu'on consomme, est toujours issue des énergies fossiles. Et la chose n'a pas changé très rapidement, même avec un taux de croissance gigantesque de ces énergies renouvelables, mais qui aujourd'hui ont un coût extrêmement, extrêmement élevé. Il faudra attendre des décennies pour inverser la tendance. Alors, dans ce cadre-là, regardons simplement l'aspect énergétique et vous allez voir ce que je veux dire. Si l'on voulait, je dis bien si, on voulait ne pas dépasser une augmentation de la température moyenne du début de ce siècle à la fin de ce siècle de 2 degrés sur Terre, eh bien, nous dit le GIEC, il faudrait considérer qu'on a un budget d'émissions. En fait, par rapport à nos réserves fossiles, et si on prend que la période 2000 à 2050, ce budget, si on ajoute aux réserves fossiles les ressources, c'est-à-dire ce qu'on estime, et si on ajoute aux conventionnels et non conventionnels, eh bien, notre budget d'émissions, qu'il ne faudrait pas dépasser d'ici à 2050, est 6 fois moins important que la totalité de nos ressources. Et par rapport à ce budget d'émissions, en 2008, on en avait déjà consommé un tiers. Donc, dans cette matière, au moins pour les 2 décennies qui viennent, on est dans un jeu à somme nulle. C'est-à-dire qu'effectivement, si on veut que les populations ailleurs dans le monde se développent, je vous rappelle qu'au jour d'aujourd'hui, grosso modo, vous pouvez diviser la population mondiale de la manière suivante. Vous avez 1 milliard qui n'est pas même sûr de survivre demain. Vous avez 1 milliard... qui vit comme nous, passablement correctement, et puis vous avez 5 milliards qui ont quelques dollars par jour. Donc, si vous voulez que ces gens puissent se développer, ils vont avoir besoin d'énergie, de beaucoup d'énergie, ne serait-ce qu'en termes d'infrastructures. Et comme nous sommes dans un jeu à somme nulle, il faudrait que pour qu'ils puissent le faire, sans que l'on perturbe trop les mécanismes régulateurs de la biosphère, notamment en termes de climat, que nous, dans ce temps, dans cette période, nous parvenions à réduire de façon significative sur 20-30 ans nos consommations d'énergie. Alors, c'est ça dont on parle quand on parle de décroissance. C'est pas une décroissance générale et tous azimuts. Et si on voulait vraiment s'orienter dans ces directions, dans un premier temps, il y aurait besoin d'un investissement public énorme et d'une croissance énorme, ne serait-ce que pour réhabiliter le bâti, ne serait-ce que pour investir dans ces technologies nouvelles. Donc les choses sont assez complexes. Souvent, on se plaît à simplifier le débat. Par ailleurs, vous parlez justement d'accès à la santé, etc. Vous savez que finalement, c'est malheureux. C'est-à-dire que plus on développe des techniques en matière médicale et plus on sait faire des choses, mais en même temps, plus l'accès à la meilleure médecine devient extrêmement onéreux, ça va dans le même sens, et plus vous induisez aussi des inégalités dans l'accès à la médecine. Alors, même en termes social-économiques, ce qu'on sait par ailleurs, c'est qu'un certain type de croissance, vous regardez par exemple les États-Unis, c'est le premier pays industriel dont l'espérance moyenne de vie commence à régresser. Ils ont notamment un problème énorme en termes d'obésité, qui renvoie aussi à une certaine forme de croissance, à une manière dont la croissance est conçue. Et beaucoup, et les économistes nous ont appris d'ailleurs dès le début des années 70 qu'aujourd'hui, à partir du moment où on dépassait un certain seuil en termes de PIB annuel par personne, eh bien, que l'on voyait se disjoindre, se décorréler la courbe qui retrace l'augmentation du PIB et la courbe qui retrace l'augmentation du bien-être. Donc en fait, on est en train de saccager la planète, on est en train de compromettre extrêmement gravement l'aptitude qu'auront à vivre nos générations dans quelques décennies, c'est pas la peine d'aller très loin, et plus encore les générations qui vont vivre, pour un bénéfice social
qui est extrêmement fragile, extrêmement critiquable, qu'on peut facilement remettre en cause et qui plus est extrêmement peu partagée à l'échelle de la planète. Donc ça mérite au moins réflexion. Ça mérite au moins qu'on sorte d'une espèce de psittacisme qui consiste à croire que c'est très simple, il faut continuer à aller dans la même direction. Aller dans cette direction, c'est sûr que c'est se casser la figure.
Alors... Mais je crois qu'il doit y avoir peu de monde ce soir qui pense que la question est si simple.
Si vous lisez une certaine presse, elle paraît aussi simple. Si vous écoutez Avenir Suisse, elle paraît très simple. Si vous écoutez beaucoup de parlementaires, j'en suis désolé, c'est extrêmement simple aussi.
Mais je ne pense pas que ça répond à votre question du contrôle de la consommation. Contrôler, ça veut dire qu'il y a une contrainte. On veut orienter, réorienter la consommation dans une voie différente. Et qui a l'autorité d'exercer cette contrainte ? Alors on dit c'est l'État. Alors quand l'État doit intervenir, il ne va jamais par quatre chemins. Ou bien il envoie le gendarme, il interdit, ou bien il envoie le fisc. Et c'est ainsi, c'est l'exercice des droits régaliens. Alors l'économiste, tout simplement, il dit il y a au fond un contrôle de la consommation, c'est par le porte-monnaie. C'est que finalement, il y a une réduction de la consommation quand les prix augmentent. Donc, quelque part, le contrôle de la consommation se fait par un jeu de variation des prix relatifs. Et là-dessus, faut-il absolument concentrer la politique environnementale? Je pense que c'est contre-productif de venir toujours avec le discours catastrophe, si on ne fait pas et si vous ne devez pas, c'est comme si on savait ce qui va se passer demain. Nous ne le savons pas. Il y a certainement une partie des possibilités qui sont déjà possibles à l'heure actuelle technologiquement, parce que la connaissance est là. On peut se poser la question pourquoi on n'applique pas déjà le savoir que nous avons, une question intrigante qui nous fait peut-être découvrir un monde pas si démocratique, mais plus corporatiste, plutôt désireux à défendre des rentes de situation. Mais il y a aussi toute une branche du savoir, de l'évolution, de la recherche. Vous savez, de cette magnifique image de l'enfant qui veut savoir comment ça fonctionne. Et cette intelligence-là existe aussi demain. Donc, ne venez pas avec des visions trop déterministes. Il y a des découvertes que nous ne nous imaginons pas encore aujourd'hui parce qu'on est un peu trop borné par rapport à toutes les possibilités que le progrès technique peut nous offrir. Et il y a certainement une partie qui nous rend prudents, c'est qu'on sait dans le fonctionnement des écosystèmes, que tout ne peut pas être substituable par rapport avec la technique et avec le progrès technique. Il y a des phénomènes qui font partie de l'existence de vie sur Terre. Il y a l'eau, l'air. Il est peu probable qu'ici, nous sommes dans des possibilités de substitution technologique. Donc, dans ce domaine, mais seulement dans ce troisième cas de figure, il est indiqué d'être un peu prudent. Donc le principe de précaution est devenu un principe juridique fort qui guide dès lors l'action quand on est dans cette situation-là. Mais globalement, réclamer le contrôle de la consommation, qu'un État, quelque part, des bureaucrates décident à votre place qu'est-ce qu'il faut contrôler et dans quel sens, je m'érige en faux. Ce que nous cherchons à préserver avant tout, c'est un acquis de civilisation, à savoir la quête de liberté individuelle. Et il ne faut pas, par des mauvais choix politiques dans la protection de l'environnement, on va tout simplement brader cet acquis de civilisation.
Des questions ? Ah, monsieur, Ah oui, attendez, alors je vous donne juste la parole à M. Mange et puis ensuite le temps que Igor arrive jusqu'à cette personne avec le micro.
Voilà. Alors je voulais juste préciser une chose au débat. Ce qu'il faut, alors j'ai bien aimé l'image de M. Bourg qui parle du milliard de gens qui vivent bien, enfin en tout cas en standard occidental, et du milliard qui vivent très mal. Et puis ça veut dire qu'il y a 5,5 milliards de population qui cherchent, en fait leur objectif principal c'est de passer de sortir de ce 5,5 milliards pour arriver dans le milliard supérieur. Et en fait, c'est là un autre aspect de la problématique LinTech, c'est qu'on peut se poser la question, est-ce qu'il vaut mieux les laisser construire une maison, acheter une voiture d'une technologie d'il y a 20 ou 30 ans? Je veux dire, vous avez probablement entendu parler des voitures indiennes, la Nano par exemple, qui est une voiture extrêmement bon marché, donc là, une voiture Tata en Inde, qui était vendue aux environs de $3,000, et puis qui est interdite en Europe, parce que c'est une voiture extrêmement polluante, et qui a été interdite dans la plupart des grandes villes d'Inde, parce qu'en fait, s'ils les laissaient entrer dans les villes, ils augmenteraient de manière massive leurs problèmes de pollution et ils donneraient accès à un grand nombre de classes moyennes, alors moyennes à l'échelle de l'Inde, à ces villes-là. Donc leurs villes sont déjà totalement engorgées, donc ça serait un chaos complet. Alors maintenant la question, c'est est-ce qu'on a meilleur temps de laisser les gens aller sur des technologies extrêmement anciennes, extrêmement mauvaises, ou alors de permettre le grand saut, dire quitte à prendre une voiture, prenez plutôt une voiture de type hybride, je ne suis pas du tout un fanatique de la technologie hybride, mais plutôt une voiture de la dynamique clean tech, une voiture de demain, plutôt qu'une voiture de hier. Et c'est ça la grande question. C'est pas uniquement de dire je vais consommer plus des produits, je jeter encore plus souvent mon smartphone, parce que il y a l'iPhone 5 qui va bientôt sortir, donc je me dépêche de jeter le 4. C'est plutôt de se dire non, grâce à ces produits-là, je vais avoir des produits qui durent plus longtemps, qui sont mieux conçus et qui ont une certaine pérennité, une certaine vision d'avenir.
Allez-y.
Bonsoir, Philippe Massiot. J'ai une remarque par rapport à l'énergie infinie qui a été développée par M. Balif. Thermodynamiquement, ça paraît un peu difficile à comprendre, mais récupérer de l'énergie, la stocker, puis la redonner sous forme d'électricité, par exemple, j'appelle pas ça avoir une énergie infinie. Voilà. Donc de toute façon, on a une certaine quantité d'énergie qu'il faut bien se répartir dans l'univers. D'autre part, il y a un problème à prendre en compte quand on achète quelque chose. C'est non seulement la face noble. Par exemple, une voiture consomme uniquement 5 litres. Mais il y a également la face moins noble. Elle rejette des particules fines, dans le cas des diesels. Monsieur Bourg a très bien présenté les panneaux solaires avec le charbon qui est utilisé pour. Donc à chaque fois, il faudrait prendre en compte l'intégralité de la production, de l'utilisation et du recyclage. Les panneaux photovoltaïques, on va produire de l'électricité, mais ensuite cette électricité, on pourrait l'utiliser à travers de batteries, et dans les batteries, on va utiliser du platine, on va utiliser du lithium, et les réserves en platine et en lithium sont extrêmement finies. Les premiers chiffres qui sortent dernièrement, c'est quelques années, quelques dizaines d'années de ressources en platine et en lithium. Donc finalement, on repousse le problème plus loin. On va bientôt manquer de pétrole, mais si on change d'énergie, on va bientôt manquer d'autres éléments sur Terre. Donc finalement, le problème n'est fait que repousser. Et puis j'avais juste une deuxième remarque, d'une manière plus économique, cette fois-ci. Il n'y a pas que le porte-monnaie qui contraint, il y a aussi le marketing, puisque j'appelle ça l'appâtement des vendeurs pour vendre une technologie soi-disant bonne pour l'environnement en ne présentant qu'une seule face. Et enfin, troisième intervention, l'obsolescence programmée est toujours enseignée dans les écoles de commerce. Et c'est absolument scandaleux, il faudrait peut-être s'attaquer à ça en premier, construire des objets de la vie courante qui durent plus que 2, 5, 10 ou 15 ans.
Juste une minute, monsieur Baïf.
D'abord, je vais juste mentionner que les scientifiques ou la science, les progrès technologiques en lui-même est neutre. Ce qui est important, c'est ce qu'on va en faire. spécifiquement, je pense qu'il y a pas mal de gens qui travaillent au développement de nouvelles solutions. Ils se posent quand même des questions sur l'impact et vous avez l'air de croire qu'on ne se pose pas de questions sur l'impact de nos technologies. C'est faux. Dans n'importe quel projet qu'on fait, on va toujours analyser systématiquement la chaîne de valeur énergétique, relâchement de CO2 lors de la fabrication des panneaux, etc. On est très au courant et les bilans, comme j'ai dit, sont bien meilleurs que ce que peut-être vous l'avez cru au travers des dires de Dominique Bourg. Maintenant, typiquement aussi dans le cas du stockage de l'électricité, qui serait une problématique très importante, il n'y a pas que des solutions avec du lithium et avec du platine. Il y a des matériaux comme le sodium et le soufre qui sont abondants, non toxiques, qui peuvent être utilisés pour faire des batteries au sulfure de sodium. Donc, il y a d'autres solutions. Et puis, le rôle des scientifiques, c'est d'explorer ces solutions. Et ensuite, s'il y a un marché qui est là, et ça, c'est important de bien comprendre qu'il doit y avoir le marché pour que ces solutions puissent se développer et avoir un coût qui devienne acceptable pour la société. On doit encourager cette entrée dans le marché. Et puis, ensuite, on a des nouveaux moyens technologiques à disposition. Et, comme toujours, sont, après la législation, les lois qui passent soit par le porte-monnaie, hein, comme le propose l'économiste, où moi je pense qu'il faut une combinaison de porte-monnaie, mais en même temps de d'autres lois incitatives, il y a peut-être des choses qu'à un moment donné, il faudra soit les interdire, soit faire des effets multiplicateurs sur le porte-monnaie. Il y a un parti suisse qui proposera peut-être un jour d'introduire le crédit CO2 sur chacun de nos actes de consommation. Donc chacun pourra avoir sa carte quand il achète quelque chose. Elle se fait créditer d'un montant CO2. On prend un billet EasyJet, crédit CO2. On achète un autoradio, une voiture, crédit CO2. Et puis, on pourra dépasser. Je pense que le but, ce n'est pas d'empêcher ça, mais le dépassement aura un prix fort. Et peut-être qu'un jour, ce sera sans doute la manière la plus fair play de faire. Hein, parce que finalement, il n'y a pas de raison que chacun ne soit pas responsable. Et ça sera le coup. Et puis maintenant, bien sûr, peut-être qu'aussi, la chose dont on n'a pas parlé ici, c'est des valeurs. On a toujours cette valeur de la consommation telle qu'elle était érigée en culte lors de ce dernier siècle. Moi, je ne suis pas sûr que c'est une liberté qui ait beaucoup de valeur à l'heure actuelle. Je pense qu'on pourrait essayer de recentrer un petit peu vers d'autres types d'autres valeurs.
On va y aller dans l'ordre, monsieur, et puis ensuite monsieur Bourguignon.
Voilà, je voudrais réagir simplement. Je crois qu'il n'y a pas de désaccord entre nous sur le fond. Effectivement, si on s'en tient à cette science et à ces technologies neutres dont vous parlez, là, je crois qu'il n'y aura aucun désaccord. Et si on reprend effectivement cette image que j'ai donnée des 5 milliards et des 2 autres milliards de part et d'autre, il est clair que sans clean tech, on n'améliorera pas le sort de la totalité des hommes. C'est évident. Mon problème n'est pas celui-là, hein, qu'on ne me mécomprenne pas. Maintenant, je voudrais revenir justement sur cette question du, entre guillemets, un contrôle de la consommation. Ça fait peur, hein, ça fait un peu écofascisme quand on le dit comme ça. Maintenant, il y a plusieurs manières de concevoir les choses. Effectivement, il y a les prix. Les prix sont un aspect extrêmement important. Il y a les normes. On pourrait très bien imposer que d'ici à 4 ans, toutes les voitures produites n'émettent pas plus de 60 grammes au kilomètre. Ça ne serait pas complètement impossible. Il y a effectivement, et là, on est sur un contrôle déjà plus dur, il y a la possibilité, vous venez d'y faire allusion, d'une carte carbone, par exemple, avec un quota annuel. C'est très compliqué, le coût de transaction est très, très, très élevé, mais ce n'est pas un système en soi qui est mauvais. Simplement, pour moi, ce système aurait un intérêt si vous aviez un resserrement de l'échelle des revenus. Tant que vous avez une échelle des revenus aussi, avec un éventail aussi large qu'aujourd'hui, eh bien, il est clair que les gens les plus riches, si vous voulez, pourraient se payer les quotas des plus pauvres, alors qu'à ces quotas correspond finalement un droit de destruction qui se fera payer, alors lui, directement par ceux qui suivront. Donc, faut bien voir que aussi dans le monde dans lequel on est, bon, durant les 30-40 dernières années, on a eu une explosion quand même de là. Je vais vous donner quelques chiffres. Si je prends les États-Unis entre 1979 et 2003, si je prends les 20% les plus pauvres, leurs revenus ont cru de 3,5%. Si je prends les 5% les plus riches, leurs revenus ont cru de 68%. Et si je prends les 20% les plus riches, leurs revenus ont cru de 45%. Donc on a laissé exploser les inégalités. Et cette explosion des inégalités, eh bien, fait que, si vous voulez, le standard général de la consommation dans nos pays ne cesse d'être tiré vers le haut, alors qu'effectivement, on a un problème de ressources énorme. Mais je voudrais revenir à cette question de la substituabilité, qui est abordée tout à l'heure par mon collègue économiste. Il faut faire très attention à ce qu'on dit lorsqu'on parle de substituabilité. C'était Solo qui imaginait qu'on pouvait substituer du capital reproductif, c'est-à-dire des techniques, effectivement, à la part du capital naturel que chaque génération, par ses activités économiques tout à fait standards, détruit. L'expression est quand même relativement imprécise. On ne substitue pas du capital reproductif au capital naturel. Simplement, avec de nouvelles techniques, on peut exploiter des parties du capital naturel qu'on ne savait pas autrefois exploiter. Et quand on voit justement ce qui nous arrive aujourd'hui, les choses ne sont pas simples. Si vous regardez sur le plan des métaux, par exemple, depuis seulement une dizaine d'années, on utilise les deux tiers de la totalité des métaux disponibles. On trouve sur la table de Mendeleïev, on utilise à peu près 60 métaux différents. Bon, beaucoup de ces petits métaux précieux, semi-précieux, qui sont absolument indispensables pour justement ces fameuses clean tech, mais qui sont sur Terre à l'état d'hypertrace. Il est probable que dans la décennie ou les deux décennies qui viennent, on va finir par utiliser la totalité. Et là, on se trouve face à un problème de substitution possible qui devient de plus en plus difficile. Donc, simplement, autant effectivement je crois au génie humain, autant je crois en la capacité que ce génie a de nous surprendre, autant je ne tiens pas à croire dans une période aussi tendue, aussi difficile, au Père Noël. Je vais vous donner un exemple de Père Noël. Dans un numéro de Science et Vie, c'est une revue de vulgarisation, c'est pas une revue scientifique, qui date de 59, voilà un article où, par exemple, il y avait un dossier qui était assez bien informé, puisque ça date de 59, c'était juste un an après le début des travaux de Keening, qui a commencé, sous la demande de son professeur Roger Revel, à mesurer systématiquement et tous les jours la variation de la concentration atmosphérique de CO2. Et bien, dans cet article, on disait, oui, en fait, on a un problème maintenant avec le CO2, 59, mais en l'an 2000, nous aurons résolu ce problème. Et nous régulerons le climat planétaire avec un simple thermostat. Ça, c'est la croyance au Père Noël. Donc, on doit faire le... Comment dire? C'est pas facile, parce qu'on ne sait pas effectivement ce que l'innovation nous réserve. Mais il faut raison garder, il faut faire très attention à un certain nombre de paramètres. Et là, effectivement, on est quand même dans une passe extrêmement difficile, et extrêmement dangereuse. Et on n'a pas le droit de faire n'importe quoi. On a le devoir d'innover technologiquement, mais on a aussi le devoir d'innover institutionnellement, d'innover socialement. Par exemple, quelque chose comme l'économie de fonctionnalité pourrait permettre que des objets sophistiqués, qui seront peut-être de plus en plus chers à produire, puissent, par mutualisation, servir à un plus grand nombre, etc. On a devant nous un immense boulevard d'innovation, mais il ne faut pas se tromper sur ces innovations. Il faut être prudent, savoir prendre des risques, mais garder une certaine forme de prudence par rapport à des enjeux où on parie sur l'avenir de l'humanité, sans même parler des autres espèces.
Monsieur Bourgogne-Meyer.
Oui, j'aimerais revenir sur ces lois thermodynamiques. Pour vous faire la petite démonstration que j'entends souvent, qui finit par, au fond, nous culpabiliser qu'on peut plus continuer à croître, n'est-ce pas, et qu'il faut aller vers la décroissance. Alors l'argument est le suivant. Au fond, l'économie, c'est rien d'autre que du travail, et puis le travail en termes physiques, c'est de l'énergie. Bon, alors passons comme chat sur braise sur cette interprétation que l'économie n'est que du travail et que c'est une interprétation marxiste au point de départ de la démonstration. Ensuite, on fait intervenir les lois thermodynamiques que je n'ai pas eu le plaisir de les étudier. Je me suis renseigné auprès des collègues qui enseignent ça pour me rendre compte que c'est infiniment plus complexe que de les utiliser par simple métaphore pour les transposer dans les sciences économiques qui font partie des sciences sociales. Donc, comment est le raisonnement? Bon. L'économie, c'est du travail, le travail, c'est de l'énergie, donc c'est soumis à la loi thermodynamique. Dans un système fermé, bon, rien ne se crée, rien ne se perd, donc masse constante, et ensuite, deuxième loi, il y a la loi d'entropie, il y a ce que Georgescu Rogan a appelé une flèche qui fait que chaque fois qu'on travaille et on travaille plus, on fait perdre de l'énergie, et de l'énergie utile, on passe de la basse entropie à la haute entropie, et puis il y a une perte irréparable, irréversible d'énergie dans tout processus de production. Boum! Alors, voilà, démonstration qui se veut scientifique des gens qui parlent de la décroissance. Quelles sont les objections? Alors, les objections sont déjà dans le domaine scientifique. Est-ce qu'on est effectivement en présence d'un système fermé? Vous savez très bien que ce système énergétique est ouvert à des sources énergétiques extérieures. Donc, il y a déjà quelque chose qui ne fonctionne pas avec les hypothèses quand on les regarde du point de vue de la logique scientifique. Mais il y a pire. C'est ce mauvais raisonnement qui résonne au fond par simple analogie, qui pense qu'en science humaine, ça fonctionne comme des sciences naturelles, fait croire que dès lors que nous sommes dans une situation où l'énergie, quoi qu'on fasse, va se perdre, et donc on va être dans un monde fini, finit par être effectivement un programme, somme toute, assez fascisant. Parce que tout d'un coup, il n'y a plus de possibilité, vous n'avez qu'à plier, vous ne pouvez que retourner aux cavernes, il n'y a finalement plus... Il y a un déterminisme, un pessimisme qui s'exprime, qui va à l'opposé de cette valeur qui reflète quand même notre civilisation. Si on exagère dans une foi aveugle dans la technologie, ça ne veut pas encore dire qu'il n'y a plus de solution que de décroître. Ce qui est en jeu, et les enquêtes le montrent très clairement, quand la population est très soucieuse des problèmes environnementaux, mais lorsque vous le présentez comme soit protéger l'environnement, soit de trouver de l'emploi et de favoriser la croissance économique, c'est béton. La priorité va sans aucun doute vers la croissance économique. Quand vous regardez, vous écoutez Copenhague, les arguments des pays dont vous déplorez, qu'est-ce qu'ils disent? Pourquoi nous, Indiens, qui a une émission CO2 si faible par tête, devrons faire un effort? Nous n'avons même pas dans tous les foyers une ampoule. Et vous, pays développés, vous pensez que nous devons aussi faire notre contribution? Non. Nous ne faisons pas de contribution aussi longtemps que nous n'avons pas atteint votre niveau de vie qui est le vôtre. Donc c'est forcément toujours la réponse, avant tout, la croissance économique. Et vous n'allez pas convaincre les politiciens chargés de faire une politique de protection de l'environnement lorsque vous commencez à jouer l'économie contre la protection de l'environnement. Vous devez trouver des solutions où les choses deviennent compatibles.
Excusez-moi, mais on a parlé plusieurs fois maintenant d'économie, M. Burgenmeier, et je ne comprends pas bien comment est-ce qu'on peut faire pour économiser tout en laissant l'économie fonctionner. Parce que si on économise, bah forcément qu'on va moins consommer. Donc le marché va moins bien tourner, il y aura du chômage, enfin c'est ce que vous venez d'évoquer. Mais en même temps, on a l'impression que on peut pas continuer de consommer comme maintenant, parce que ça semble clair qu'on détruit notre environnement. Donc là,
c'est toute la question du contenu de la croissance. Oui, c'est la question du contenu de la croissance. Et forcément, ce contenu est en train de changer à cause de clean tech notamment. Et il faut poursuivre cette idée que nous allons créer de la valeur ajoutée, mais on va être obligé de la créer autrement, et notamment avec des technologies qui sont moins polluantes. Ce n'est pas encore panacée universelle, je n'ai pas la solution quick fix où j'ai une technologie qui résout tout cela, mais on va petit à petit créer de l'emploi dans des domaines de ressources renouvelables, dans des domaines d'énergie renouvelables. Par conséquent, nous allons continuer à augmenter la valeur ajoutée, mais on va être obligé de petit à petit intégrer des nouvelles connaissances et petit à petit se mettre sur un sentier qui est compatible avec la protection de l'environnement. N'est-ce pas? Ça va forcément prendre du temps. Et face à des gens qui me racontent que tout s'est foutu, on n'a qu'à te croître, retourner dans les cavernes, parce qu'il n'y a plus d'énergie d'ici, si on continue comme ça. Et puis, il y a de l'énergie qui a de toute façon haute entropie, donc on ne peut plus la récupérer. Donc, non, il y a des possibilités, il faut s'y mettre, et je n'y crois pas à des gens qui me prédisent l'avenir. Même l'avenir scientifique, c'est la pure spéculation, nous sommes obligés de faire le chemin ensemble et découvrir des solutions pas à pas. Je suis un Suisse allemand pragmatique et je crois à ce pragmatisme que nous allons prendre le virage. Si on n'arrive pas à prendre le virage, mais forcément, ça va être truffé de conflits sociaux autour de la protection de l'environnement. Vous en avez cité les problèmes qui sont normalement traités sous la dimension sociale du développement durable. Bien sûr, il y a des ruptures possibles, mais s'il vous plaît, pas de catastrophisme et prenons pas à pas les virages qui s'imposent en appliquant ce que nous pouvons. C'est peut-être pas très spectaculaire, pas faire peur pour dire nous sommes foutus. Et puis si vous n'agissez pas comme je vous dis, mais ça, vous verrez ce que vous allez voir, parce que la catastrophe vous tend. Ça fait partie de ces scénarios que l'humanité a expérimentés dans le passé. Faites peur au peuple pour mieux le gouverner.
Alors attendez, il y a monsieur Mange d'abord, ensuite monsieur dans le public, monsieur Bourg. Monsieur d'abord. Ah, ok, d'accord. Alors, Igor.
J'aimerais juste revenir sur deux aspects qui ont été soulevés tout à l'heure. Tout d'abord, le problème de déplétion de beaucoup de matières. On a effectivement un grand problème. Hein. On parle du pic du pétrole, mais je veux dire, la plupart des matières dans ce siècle, certains spécialistes préconisent que le fer, l'acier, on en a encore pour 15 ans. Le lithium, ça dépend de la consommation. Je veux dire, on a des grands problèmes, mais il y a deux manières de voir les choses. Il y a une manière catastrophiste, c'est de dire on en a bientôt plus. Qui rejoint ce que M. Bourgenmeier disait, les catastrophistes qui disent il faut surtout pas faire ça. Puis il y a une autre manière de voir, en fait, que quelque part, la bonne nouvelle, c'est qu'on sort un certain nombre de matières de la croûte terrestre à des coûts énergétiques qui sont bas, parce que la question n'est pas seulement la quantité qu'il y en a, mais à quelle quantité et à quel coût énergétique et coût financier, les deux étant relativement liés. Est-ce que je peux extraire un certain nombre de produits? Pour revenir rapidement sur le pétrole non conventionnel, il y en a certainement beaucoup, mais certains pétroles requièrent 80% d'énergie pour transformer un baril de pétrole en quelque chose d'utilisable. Donc ça veut dire que le coût est totalement absurde. C'est mieux de ne pas y penser plutôt que d'envisager de l'utiliser. Parce que si 80% de l'énergie sert juste à en faire quelque chose, pour le moment, en tout cas, ce n'est pas très raisonnable. Mais donc, pour revenir à ce que je disais avant, donc ces produits qu'on utilise, aujourd'hui, demain, on pourra les voir comme un stock. Je veux dire, mon smartphone aujourd'hui, pour reprendre cet exemple-là, contient des tas de produits nobles, le tantal en particulier, qui est aussi un élément extrêmement critique. Certains experts parlent de 3 à 5 ans de stock de tantal qu'on a. Ben, tout simplement, tous les téléphones qu'on jette, et vous en avez certainement tous encore 2-3 dans vos tiroirs, sont des micro-traces de tantal qui demain seront valorisables et valorisées. C'est aussi ça, ces nouvelles technologies qui existent. Et il y a un outil pour permettre d'envisager les choses et de voir ces matières-là, c'est l'analyse de cycle de vie. On peut vraiment quantifier les impacts. Un autre outil aussi qui est en particulier à Lausanne, un collègue de M. Bourg, l'écologie industrielle, qui permet de réfléchir à toutes ces dynamiques-là. Donc les outils sont là, les mécanismes sont connus. La question, c'est est-ce qu'on veut les utiliser ? Et le deuxième point sur lequel je voulais rapidement revenir, c'est ce qu'on appelle l'économie de fonctionnalité. Alors je me permets je suis pas du tout un économiste et pas un spécialiste, mais peut-être que tous les gens dans la salle ne savent pas ce que c'est. Qu'est-ce que l'économie de fonctionnalité en deux mots? C'est au lieu d'acheter un produit, c'est d'acheter en fait l'usage d'un produit, typiquement mobility, c'est pour moi l'exemple. Je veux dire, j'achète pas ma voiture, ma belle voiture que je mets devant mon garage à la maison, j'achète une carte qui me permet de me déplacer de A à B où j'en ai besoin quand j'en ai besoin. Mais on pourrait imaginer des tas d'autres applications. Au lieu d'acheter une imprimante, est-ce que j'ai besoin d'une imprimante? Moi, j'ai pas besoin d'une imprimante, j'ai besoin d'une feuille imprimée. Est-ce que j'ai besoin d'une machine à laver? Non, j'ai besoin du linge qui est lavé. Je veux dire, il y a des tas d'applications et d'usages qui sont extrêmement intéressantes, et elles sont surtout très intéressantes parce qu'on renverse finalement le besoin, monsieur parlait de l'obsolescence qui est construite avec les produits. Un fabricant de machines à laver veut que ces machines ne durent pas trop longtemps parce qu'il veut pouvoir en vendre plus vite. Par contre, au moment où j'achète la lessive et que je paye ma lessive, ben, le fabricant il a intérêt à envisager depuis la production que la machine va durer le plus longtemps possible, qu'elle consomme le moins d'énergie et que moi, en tant que fabricant, je sache comment faire du rétrofit, c'est-à-dire comment reprendre cette machine, la démonter et mettre la nouvelle, le nouveau software, le nouveau Windows 9.5 dans ma machine à laver pour qu'elle remarche demain au coût minimal. Et ça, c'est quelque chose qui est un potentiel gigantesque, qui est totalement sous-exploité, mais qui commence à démarrer. Je dis la Suisse, à ce niveau-là, est très en avance, entre autres avec un idéal qui a commencé il y a une douzaine d'années, qui s'appelle Mobility, et qui aujourd'hui est quelque chose qui marche et qui est un produit d'exportation de la Suisse, qu'on oublie un peu trop souvent de le dire.
Question dans le public, ensuite ici, et puis...
Noté pour me repérer, M. Mang, dans le discours précédent, vous avez parlé du grand saut, en parlant de la voiture classique. Est-ce qu'il faut tenter le grand saut? M. Bourg parle d'innovation et dernièrement, M. Bourgenmeier parle de virage, le bon. Alors, moi, et puis en plus, je fais une prophétie, M. Bourgenmeier. Donc, vous pouvez boucher les oreilles, si vous voulez. Le grand virage sera celui vers le haut. Et le grand saut, M. Mang, ce n'est pas depuis la voiture classique à la voiture hybride, ni même à la voiture électrique, c'est depuis la voiture à l'avion. L'avion individuel, l'avion personnel. Ce que la nature a réussi à 200 millions d'années, ce qu'un mammifère a réussi à 40 millions d'années, et ce que l'homme n'a réussi que depuis un tout petit peu plus d'un siècle, vous vous rendez compte? L'aviation, c'est même pas un nouveau-né, c'est un embryon, un fœtus. Alors ceux qui croient que des F-18 et des A380 sont l'aboutissement de l'aviation sont complètement côté de la plaque. L'avion du futur qui va remplacer la voiture, ce sera l'avion que la Suisse est le seul pays au monde à interdire, l'ultra-léger motorisé. Et maintenant encore, pour appuyer ma prophétie, M. Bourgenmeier, il y a quelques jours, c'était le 14 février, le gouvernement chinois a ouvert au public l'espace aérien en dessous de 3000 mètres. Et immédiatement, le plus grand fabricant d'autogires américain, Graham Brothers, a conclu une joint venture avec l'entreprise chinoise pour fabriquer en très grande série l'autogire le plus avancé du monde, le seul à turbine d'ailleurs. Ce n'est pas la solution, mais c'est la bonne direction, c'est le bon virage. Et c'est l'innovation que Monsieur Bourg appelle de ses voeux. Mais il semble qu'ici, tout le monde veut parler d'innovation. Personne ne veut... C'est comme si vous confisquiez les visionnaires, les visions des visionnaires. On doit choisir le bon virage. Il y a des innovations, mais c'est comme si vous vouliez dire il ne faut pas dire ce que c'est. Il ne faut pas se déterminer. Il faut continuer comme maintenant. Mais cette innovation viendra. Et elle viendra peut-être plus tôt que vous ne le pensez. Le professeur Babet a dit, pour la conclusion des États généraux de l'énergie à l'Ola des Jeunes Rives, le 13 décembre 2010, il a dit, dans sa conclusion écrite, qu'il a publiée un mois plus tard sur le site EG10 de la ville, il a dit, on verra peut-être apparaître bientôt des véhicules qui ne sont pas des voitures, ni des scooters, ni des vélos. Et je peux vous dire que c'est moi qui lui ai mis la puce à l'oreille, parce que je l'avais intercepté à la fin de sa conclusion pour lui parler de ce projet d'avion personnel qui sera certainement la mobilité individuelle du futur. La crise américaine, que vous croyez tous être la crise financière, eh bien la crise financière, c'était un épiphénomène de la vraie crise, qui est la crise de l'économie réelle, et le coupable, c'est la voiture, et plus précisément le réseau routier.
Alors, si la Russie, si la Chine, si l'Inde se mettent à la voiture à 100%, on va dans le mur. Ils iront encore plus fortement dans le mur que les États-Unis le sont déjà. Et ne parlons même pas de l'Afrique. Mais en Afrique, il est en train de se produire un phénomène qui est une sorte de prémonition de ce qui pourrait se passer en Afrique. Et ça se passe pour la mobilité des informations, pas pour la mobilité de personnes, mais pour la mobilité des informations. En Afrique, les Africains sont en train de profiter de nos technologies pour passer directement à la mobilité des informations par l'espace aérien, par le téléphone mobile. Ils ne couvriront pas leur continent de milliers de kilomètres de fils de cuivre. Et on peut penser que, vous permettez que je finisse, madame, ma phrase, on peut penser que l'Afrique ne fera pas l'erreur de couvrir cet immense continent, le plus grand de tous, d'un réseau d'autoroutes.
Non, excusez-moi, juste, je voulais aussi donner la parole à monsieur là-bas qui attend depuis un bon moment.
Oui, merci. C'était par rapport à l'intervention de M. Bourgogne-Meyer tout à l'heure, sa démonstration avec l'énergie et le système ouvert. Il me semble quand même qu'il y a d'autres ressources, et ça a été évoqué. Je sais pas, il marche le micro ? Il y a d'autres ressources, et la question a été évoquée, qui s'épuisent rapidement. Et moi, j'en appellerais vraiment à vos sciences respectives, messieurs les intervenants, pour que vous les mettiez ensemble plutôt que les opposer, de façon à nous fournir une sorte de bilan sur la durée de disponibilité des ressources terrestres, pas l'énergie, parce que c'est vrai, là, il y a une source extérieure à la biosphère qui est à peu près inépuisable, en tout cas à l'échelle humaine, mais les autres ressources terrestres, et de savoir quels sont les moyens à disposition pour prolonger la disponibilité de ces ressources, c'est-à-dire justement en matière de recyclage, d'utilisation optimale, etc., en fonction des connaissances aujourd'hui, et quels sont du coup les efforts à fournir, et dans quel sens, pour mettre en place un tel système. Parce que moi, j'entends M. Monge qui parle de l'économie de la fonctionnalité, mais il me semble que cette économie de la fonctionnalité va à l'encontre de tous les intérêts de tous les secteurs commerciaux exerçant aujourd'hui. Donc, comment est-ce que vous allez convaincre le vendeur d'électroménager ou le producteur d'électroménager que plus personne n'a besoin de machine à laver parce qu'il y a une grosse machine à laver quelque part qui lave le linge de tout le monde? Donc il y a des intérêts économiques et des intérêts de marché qui s'opposent de façon virulente à la mise en place d'une économie de fonctionnalité.
Je voudrais revenir déjà sur certains aspects généraux. Il est clair qu'à 7 milliards et probablement à 9 milliards dans peut-être 3 décennies, on ne vit pas à technologie constante. Ça, c'est une évidence. Je n'ai absolument aucun doute là-dessus. Et à 7 milliards, revenir à la lampe à huile et au rendement agricole qui était ceux de la fin du 19e, à peu près 13 quintaux de blé à l'hectare, on crève tous de faim et on se tape dessus. Donc ne caricaturez pas les positions des autres, c'est ridicule et ça ne fait absolument pas avancer le débat. Maintenant, ce dont a parlé M. Bourgogne-Meyer, c'est ce qu'on appelle la stratégie du découplage. Cette stratégie, on essaie de la faire depuis qu'on parle de développement durable. Je dirais d'une certaine manière, depuis que l'industrie existe, on a cherché à découpler. Les gains de productivité, ça se fait toujours en consommant moins de ressources. Le problème, c'est qu'on n'a pas réussi à le faire de façon suffisamment rapide pour qu'on gagne sur l'augmentation au même moment de la consommation. Donc moi, je suis vraiment désolé, mais j'y crois pas et je n'y crois plus. Et j'appelle autre chose. Alors, effectivement, l'économie de fonctionnalité, c'est un des aspects du système, et c'est un des aspects, à mon avis, très intéressant. Moi, vous savez, la chose est inventée par les industriels eux-mêmes. Les tout premiers à l'avoir exploité intellectuellement, c'est un Suisse, d'ailleurs, c'est Walter Stahel. Il faut lui rendre cet honneur. En plus, c'est quelqu'un d'extrêmement sympathique et de tout à fait inventif. Ça reste une niche. Au jour d'aujourd'hui, ça reste vraiment une niche, mais on sent maintenant qu'il y a un intérêt. Par exemple, en France, la Fondation Concorde, qui est plutôt un think tank de droite, par exemple, a fait un excellent rapport sur la question de la fonctionnalité. Le Grenelle avait fait aussi quelque chose, etc. On ne sait pas, il y a toutes sortes de choses qui viennent aujourd'hui. On voit que ça germe un peu, ça germe un peu partout. Mais ce monde, le poursuivre de manière unilinéaire, ça n'a absolument aucun sens. Je vais simplement vous prendre l'acier.
Vous avez parlé de 15 ans, non, c'est un peu plus quand même. Avec, si on poursuit dans les décennies qui viennent, le taux d'augmentation de la production annuelle qu'on a connu de 1998 à 2008, c'est-à-dire une production annuelle d'acier mondiale qui augmente chaque année de 3,5%. En moins de 5 décennies, on aurait épuisé les réserves connues. Je ne parle pas de ressources, parce qu'on ne les connaît pas d'ailleurs, mais les réserves connues. Avec un taux de recyclage de 62%, vous m'avez bien entendu, avec un taux de recyclage de 62%, c'est ce qu'on peut imaginer, c'est le summum qu'on pourrait imaginer. Eh bien, vous ne feriez jamais dans ces conditions-là que de différer l'épuisement des réserves connues, j'insiste quand même là-dessus, de 12 ans. Le seul moyen pour que ce recyclage donne un espace de respiration plus grand avec ce type de ressources, donc l'acier en l'occurrence, ce serait de redescendre sur un rythme d'augmentation mondiale de la production qui serait égal ou inférieur à 1%. Et on peut répéter le raisonnement avec d'autres ressources. Ça, c'est l'autre chose. On a une difficulté. Elle est énorme. Moi, je fais le pari, mais je peux très bien me tromper, mais je fais le pari que toutes ces difficultés quantitatives devraient nous conduire à envisager un autre mode de fonctionnement, ce qui, encore une fois, j'insiste, ne revient pas à revenir à la lampe à huile, ça n'a aucun sens. Maintenant, quand on parle de catastrophe, je ne sais pas ce qu'il vous faut, mais l'état que je vous indiquais tout à l'heure sur le milliard qui crève de faim, le milliard qui vit bien, les 5 milliards dont franchement la vie n'est pas très facile, si vous n'appelez pas ça une catastrophe, je vous demande bien ce que vous appelez catastrophe. Donc, quand on parle de catastrophe, elle se mêle, elle s'entremêle avec des choses qui sont extraordinaires. Si vous faites le bilan du XXe siècle, c'est à la fois effectivement des progrès technologiques extraordinaires, c'est les droits de l'homme, c'est la liberté politique, c'est les deux guerres mondiales, c'est les problèmes d'environnement, c'est un mélange de tout ça. Mais des catastrophes, vous les avez déjà. Quand on parle de catastrophe, on veut simplement dire qu'on ne veut pas amplifier celles qui existent. On n'appelle pas quelque chose qui n'existe pas encore. Donc appelons un chat un chat, ça pourrait faire du bien.
J'aimerais peut-être compléter en disant que, effectivement, pour moi aussi, la situation, on ne peut pas parler de pas de catastrophe, que les choses vont très vite, que certains prennent plus conscience que d'autres. Alors la Suisse, qui est toujours un petit peu lente, vient de publier un master plan clean tech où pour la première fois, on a une véritable reconnaissance au niveau fédéral qu'il y a des problèmes avec... avec l'énergie, etc., puis qu'il faudrait songer à prendre certaines mesures. Et puis, on voit en même temps que dans d'autres pays du monde, heureusement, ça va plus vite. Il y a certains gouvernements qui ont su prendre les bonnes mesures. Mais là, j'aimerais peut-être donner un message que je trouve important. Une des difficultés qu'on a, c'est qu'on sait maintenant qu'on pourrait quand même faire mieux que ce qu'on fait. Si tout le gouvernement du monde était dirigé par des écologistes éclairés, avec un certain sens de l'économie, on éviterait certaines aberrations. Moi, je rentre des Émirats Arabes Unis, qui se développent à grands coups de construction. Alors, c'est une véritable catastrophe. Ils ont décidé de se développer. Alors, ils font des maisons qui ne sont pas isolées. Donc, au cœur de l'été, pendant un mois, on consomme 14 000 kWh. Donc, complètement absurde. Donc, dans ce sens-là, je pense que les bonnes solutions technologiques doivent être systématiquement favorisées par les gouvernements. Mais ces gouvernements doivent, quelque part, avoir une connotation un petit peu verte. Et peut-être ce qu'il y a de positif ces derniers temps, c'est que de plus en plus, on voit aussi bien à gauche... Il y avait déjà les verts à gauche, et bien même en Suisse, maintenant, il y a le PDC qui crée un mouvement vert. Il y a déjà écologie libérale. Et puis peut-être qu'au travers de ces gens qui sont des politiciens avec une notion économique, mais aussi avec cette vision de l'écologie sur le long terme, qui ne privilégie pas juste le prochain mandat, on arrivera en tout cas à avoir une solution, un monde un petit peu meilleur, et puis qui va plutôt vers les 1% d'utilisation d'acier, plutôt vers les 3%, parce que je suis convaincu que si pour chaque... produit, chaque technologie, on favorise toujours la meilleure solution d'un point de vue environnemental, c'est déjà un premier pas. Et puis ça, il faut en tout cas le faire. Celui-là, il est indispensable.
Bon, ce que nous n'avons pas discuté ce soir, c'est au fond la question centrale, c'est du comment. On veut bien qu'il y ait des catastrophes, qu'il y ait des gens qui sont dans une détresse humaine extraordinaire. On veut bien qu'on ne peut pas continuer, qu'il faut faire autrement. Mais la question du comment... question de politique environnementale a été rarement abordée et je veux bien que dénoncer certains faits peut-être nous inciter à agir, mais ça ne veut pas encore dire comment on agit. Notre animatrice a dit mais on ne peut pas continuer l'économie comme ça, mais l'économie elle est tributaire des règles. En termes juridiques, c'est un univers contractuel. Si vous échangez achetez et vendez, vous avez toujours la possibilité de vous abstenir. Hein. Je vous signale ça en passant, même pour celui qui croit tellement à plein pouvoir du marketing. Donc, après tout, il y a toujours une volonté d'un homme éclairé qui veut conduire sa vie en dignité et en liberté. Ça reste toujours une option. Alors, par conséquent, nous sommes invités à réfléchir sur la régulation de l'économie telle que nous l'avons mise en place, historiquement consignée, par exemple, dans un code des obligations qui, pour chaque contrat, prévoit finalement des règles très précises, qui donne des garde-fous partout. Il y a des politiques publiques dans tous les sens. Prenez uniquement les subventions qui sont dispensées à travers de l'économie, du prix laitier jusqu'à l'université, on bénéficie. Regardons ça vraiment concrètement, comment peut-on réorganiser le subventionnement pour créer des incitations pour que ce virage dont j'ai parlé tout à l'heure puisse être pris. C'est ça le véritable défi où il faut investir notre intelligence, c'est de rendre ces règles différemment pour que, petit à petit, cette considération environnementale entre dans les mœurs de la vie en commun. Nous sommes une société hautement régulée et toute la propagande du tout marché autorégulé, c'est des clichés. Il ne faut pas tomber dans le panneau pour dire tout cela, l'économie fonctionne selon des recettes autorégulées. Ce n'est pas vrai. C'est un domaine hautement régulé et les règles peuvent être changées. Et ils se changent dans une société légitimée démocratiquement en fonction d'un débat et pas en fonction des vérités professées qui engagent finalement le lointain que nous ne connaissons pas. Donc, explorons ensemble dans une discussion ouverte où mon ignorance vaut votre compétence et prenons cela au sérieux pour changer les règles du jeu. Et c'est comme ça que nous avançons et pas par des incantations de misérabilistes du monde dans lequel nous vivons.
Alors, excusez-moi, là, on a passé l'heure, il y a des gens qui doivent prendre les trains. Moi, je vous propose de finir sur ces solutions qui ont été esquissées ici. Vous pouvez tout à fait rester là pour continuer de parler, mais par contre, on clôt le débat pour que les personnes qui veulent s'en aller puissent juste s'en aller. Je vous remercie aussi d'être venus. S'il vous plaît, laissez-moi juste finir. Je vous donnerai la parole après, d'accord ? Laissez-moi aussi vous remercier d'être venu ici pour ces cafés scientifiques qui sont organisés par le service de presse de l'Université de Neuchâtel. Vous avez des dépliants sur les tables que vous pouvez prendre pour nos prochaines manifestations. Bonne soirée.